Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bienvenue sur Éclairage, aujourd'hui consacré aux éruptions volcaniques, au changement des climats et évolution des espèces. Avec nous pour en parler pendant une heure, Vincent Courtillot. Vincent Courtillot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un éminent géophysicien, spécialiste du paléomagnétisme, professeur de géophysique à l'université Denis Diderot à Paris et directeur de l'Institut de physique du globe de Paris. Alors, vous avez fait une conférence il y a quelque temps à l'Académie des sciences, qui avait un intitulé beaucoup plus long que ce que j'ai pu dire. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de quoi il s'agissait ?
Eh bien, en quelques mots, les biologistes s'intéressent au moins depuis Charles Darwin à l'évolution des espèces. Au XIXe siècle, on s'est intéressé surtout à la transformation des espèces et à leur évolution les unes dans les autres, et pas tellement au fait qu'avaient découvert les géologues qu'il y a quelques moments dans l'histoire de la Terre où il semble qu'un grand nombre d'espèces biologiques disparaissent tout d'un coup dans une véritable catastrophe pour donner naissance à un monde nouveau où de nouvelles espèces se développent. Ces catastrophes n'avaient pas tellement attiré l'attention de Charles Darwin. On pensait qu'elles étaient peut-être dues à un mauvais enregistrement des fossiles par les roches qu'étudient les géologues. Et puis en fait, les travaux du XXe siècle ont confirmé l'existence de ces profondes coupures dans l'histoire du temps des géologues. C'est d'ailleurs les coupures que tout le monde a appris à l'école en apprenant l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire. Qu'est-ce que c'est que les moments entre ces aires géologiques ? Eh bien, c'est les moments où quand on regarde les bestioles qui sont préservées dans les roches, on s'aperçoit qu'elles changent en quelques centimètres du tout au tout. Dans la couche géologique inférieure, on a une vie abondante d'un certain type, et quand on regarde la couche du dessus, eh bien la vie est complètement différente, il s'est passé quelque chose, des quantités d'espèces ont disparu, d'autres espèces sont apparues, et la question c'est pourquoi.
Donc vous avez évoqué cette étude en fait de chaque coupure.
Voilà, j'ai évoqué les principales coupures, celles que, encore une fois, la plupart des gens ont apprises à l'école, même s'ils ne l'ont pas forcément retenue, la coupure entre l'ère primaire, qu'on appelle aussi le paléozoïque, et l'ère secondaire, qu'on appelle aussi le mésozoïque, c'est la fameuse ère des dinosaures. Donc cette coupure s'est produite il y a 250 millions d'années. Et il y a 250 millions d'années, tout d'un coup, alors le problème pour un géologue, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup ? Et on y reviendra probablement. Mais en très peu de temps pour un géologue, 95% de toutes les espèces qui vivaient sur la Terre entière ont disparu. Et quand on regarde la couche d'après, il n'en reste plus que 5% qui ont survécu et qui vont être la racine de la nouvelle évolution de la vie jusqu'à la suivante. Et la suivante, la grande suivante, c'est la fin de l'ère secondaire et le début de l'ère tertiaire, le passage du mésozoïque au cénozoïque. Il y a 65 millions d'années, c'est le fameux moment où disparaissent les dinosaures. Mais pas les dinosaures tout seuls, c'est aussi 65% des espèces qui disparaissent. Alors c'est pas 95% comme à la fin de l'ère primaire qui reste la plus grosse catastrophe, mais c'est quand même pas mal. Penser que deux tiers de toutes les espèces du globe disparaissent en peu de temps, et ben ça excite les esprits depuis plus de 100 ans,
oui,
et en
vrai.
Particulier, depuis une vingtaine d'années, ça a redémarré rapidement.
L'extinction des espèces en peu de temps, le temps est relatif, hein, quand on parle peu de temps en tant que géologue ou paléontologue.
Alors le travail du géologue, c'est justement de mesurer ce temps, et pour les historiens qui nous écoutent, c'est le temps profond de Brodel dans l'histoire, et nous c'est un temps qui se compte en millions d'années. Donc en effet, pour suivre une conversation comme celle que nous allons avoir aujourd'hui, il faut s'habituer à cette échelle énorme qui semble être de compter en millions d'années. Pour nous, ce qui pour vous serait la minute dans votre vie, eh bien ça sera le million d'années. Et si on s'habitue à ça, eh bien très rapidement, on compte ces unités-là. Les dinosaures sont morts il y a 65 unités. Les trilobites que beaucoup de gens s'amusent à collectionner sont mortes il y a 250 unités. La vie avec des fossiles apparaît il y a 500 unités et la Terre il y a 4500 unités. Il y a 4500 millions d'années que la Terre existe, il y a 1 million d'années que l'homme existe, même si on peut, en rentrant dans les détails, suivre son évolution à lui.
Voilà, alors maintenant, avec toutes ces explications, nous allons pouvoir partir dans le passé et nous allons pouvoir évoquer ces extinctions des espèces, plusieurs extinctions. Les scientifiques, pendant très longtemps, se sont interrogés. Est-ce que c'était dû à des impacts de météorites ou est-ce que c'était dû à des éruptions volcaniques ? Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler des éruptions volcaniques ?
Si vous voulez bien, je vais vous parler parler, puisque vous m'avez parlé des impacts de ces théories qui se sont multipliées. On constate parfois qu'au cours des 100 dernières années, il y a pratiquement eu 100 théories différentes pour expliquer la disparition des dinosaures. C'est-à-dire que pratiquement, il y a eu une théorie par an. Beaucoup d'entre elles étaient farfelues, mais un certain nombre d'entre elles n'étaient pas farfelues, en particulier celles dont beaucoup de gens ont entendu parler. On s'est inquiété du fait que les dinosaures ne se soient assis sur leurs œufs et écrasé les coquilles, ou bien qu'ils aient été empoisonnés par un changement de la flore et un régime alimentaire qui changeait. On a imaginé qu'ils n'étaient plus adaptés du point de vue de leur système nerveux à l'environnement qui les entourait. Bon, la plupart de ces théories ont fait long feu. Et c'est en 1980 qu'est apparu ce que j'appellerais la première théorie moderne, celle que d'ailleurs on enseigne encore souvent dans les écoles, la théorie de l'astéroïde. En 1980, un géologue américain, Walter Alvarez, et son papa, Luis Alvarez, qui était rien d'autre que prix Nobel de physique, ce qui était pas mal, se sont mis ensemble pour essayer de comprendre ce qui s'était passé à la limite entre le Crétacé, la fin de l'ère secondaire, et le Tertiaire. Donc
la période qui est la plus connue
de tout le monde, parce que c'est celle où ont disparu les dinosaures, mais encore une fois, bien d'autres espèces que les dinosaures, et pas seulement les dinosaures, ont disparu à ce moment-là. Et encore une fois, je fais une toute petite parenthèse pour mes amis paléontologues. Vous savez qu'on considère souvent aujourd'hui que les oiseaux sont en fait des descendants des dinosaures, et donc quand on dit qu'il n'y a plus de dinosaures aujourd'hui, il faut dire sauf leurs descendants qui sont les oiseaux. Mais disons qu'il y a quand même eu une extinction massive de toutes ces espèces qui avaient régné sur la Terre pendant plus de 150 millions d'années avec un succès formidable. Les dinosaures, c'était des animaux qui avaient connu un succès formidable. Ils remplissaient toutes les niches écologiques, dans l'eau, dans l'air, sur la Terre. Il ne faut pas du tout garder cette image de queue de race, d'espèce inadaptée. C'était une espèce, c'était un ensemble d'espèces extraordinairement bien adaptées. Et là, tout d'un coup, en moins d'un million d'années, on parlait des unités, ils disparaissent. Et qu'ont fait papa et fils Alvarez en 1980? Eh bien, ils ont ramassé des échantillons de roches de cette période et ils ont découvert à l'intérieur une concentration anormale d'un métal, l'iridium, qui est un métal très très rare dans la croûte terrestre et par contre relativement abondant dans les météorites. Et ils se sont dit, ce qui s'est passé, c'est qu'une météorite est tombée sur la Terre, elle s'est vaporisée, son iridium est retombé et on le retrouve partout dans les couches sédimentaires de l'époque.
Et a empoisonné.
Et le résultat de cet impact, ça a été une série de choses épouvantables. Il y a eu une succession probablement d'une vaporisation de soufre, parce qu'il y avait du soufre dans les roches de l'endroit où s'est produit l'impact, et ça crée un hiver. Suivi de gaz carbonique parce qu'on a vaporisé du calcaire, des carbonates, et là ça a pu donner un effet de serre, avec des poussières, de l'obscurité, donc la synthèse des végétaux, la synthèse chlorophyllienne s'arrête, avec des incendies qui auraient dévasté le monde entier, et donc toute une série de catastrophes écologiques qui auraient conduit à la disparition des espèces, et pas seulement au dépôt d'iridium qui marquait le site de l'impact.
Alors cette hypothèse marchait très bien, pour autant il y avait une autre hypothèse.
Alors il n'y avait pas vraiment d'autre hypothèse. Avant, il y en a eu des tas, on peut toujours remonter plus tard, mais c'est vraiment la première hypothèse moderne sérieuse. Et en effet, parallèlement, il y a un certain nombre de gens qui se sont dit, mais est-ce que ça pourrait pas être du volcanisme? Et comme c'est là-dessus qu'on va passer la plus grande partie de cet entretien, je vais y revenir dans un instant, mais je voudrais rester encore un moment sur l'hypothèse de l'impact de l'astéroïde. Les journalistes, pas vous, mais beaucoup de journalistes adorent que les scientifiques se battent entre eux. Et donc la façon dont ce débat est souvent présenté, c'est de dire, d'un côté j'ai les gens qui disent qu'il y a un astéroïde, de l'autre côté j'ai les gens qui disent qu'il y a un volcan, vont se taper sur la figure et on va voir qui va gagner. Je vais vous montrer que je pense, et je suis un des auteurs de cette théorie, que le volcanisme a en fait joué un rôle essentiel dans les extinctions, mais ce n'est pas pour autant que cette théorie de la météorite est inintéressante ou fausse. C'est une théorie très intéressante d'un point de vue intellectuel, c'est elle qui a relancé tout le débat depuis 20 ans sur ce sujet, et même si elle n'avait fait que ça, elle aurait un mérite considérable. Mais en plus, je pense que la météorite, elle est bien tombée, que l'iridium, il vient bien de là. On aurait pu ne jamais trouver le cratère d'impact
mais
de la météorite.
Il y a un cratère de 150 km.
On aurait pu ne pas le trouver. C'est important de dire que si on ne l'avait pas trouvé, ça n'aurait pas prouvé que la théorie de la météorite était fausse, parce que la Terre est vivante et que tout le monde connaît maintenant la tectonique des plaques. Il y a des endroits qui repassent dans le manteau de la Terre, qui s'enfoncent, qui s'écrasent dans des chaînes de montagnes, qui sont couverts de sédiments. Et donc, on aurait pu imaginer que les traces de l'impact d'il y a 65 millions d'années soient effacées depuis.
Et disparues,
retournées dans le manteau, par exemple, sous les zones de subduction, comme on dit, du Chili, de l'Alaska ou des Philippines. Philippines ou du Japon, où la croûte terrestre se réenfonce et va refondre dans le manteau terrestre en profondeur. Et puis, eh bien, en 1980 aussi, mais ils ne se connaissaient pas à ce moment-là, des géologues pétroliers qui travaillaient au Mexique en cherchant du pétrole et en faisant des études avec des outils géophysiques qu'on appelle la gravimétrie, le magnétisme, en étudiant le champ de pesanteur, les anomalies de densité, eh bien, ils ont découvert une anomalie étonnante au nord de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Ils ont trouvé dans leur carte faite de mesures de la densité et de la gravité qu'il y avait une espèce de forme ronde qui faisait plus de 100 km de diamètre où il manquait de la masse. Ça avait l'air léger. Eh bien, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire tout simplement que dans la croûte granitique en profondeur, il y avait le cratère creusé
recouvert
et rempli
de sédiments
légers. Et depuis, on a fait de la sismique, on a regardé avec nos méthodes qui sont comme de véritables rayons X qui permettent de regarder à travers la croûte les profondeurs. On a même maintenant fait des forages et on a atteint la croûte granitique et on a démontré l'existence du cratère et on a daté le cratère avec les méthodes modernes de la géochronologie et on a trouvé un cratère de 100 km de diamètre enfoui à quelques kilomètres de profondeur et vieux de 65 millions d'années. Donc il a le bon âge, il a la bonne taille. Ça en fait d'ailleurs le plus grand cratère connu sur Terre actuellement.
Alors ça signifie qu'il y aurait peut-être d'autres cratères pour le coup, mais qui auraient disparu dans le manteau?
Alors il y a sûrement eu sur Terre beaucoup d'autres cratères et pour ça, on va faire un petit détour par la Lune. La Lune est un astre qui s'est formé en même temps que la Terre avec la Terre par l'impact d'une petite planète qui devait avoir la taille de la planète Mars qui est tombée sur la proto-Terre, la Terre d'avant. Tout ça, ça s'est pas mal abîmé et de cette opération est ressorti la Terre et la Lune. Et la Lune, elle, c'est un astre mort. Et comme c'est un astre sur lequel il n'y a pas d'érosion, pas de sédimentation, pas de tectonique des plaques, pas de chaleur, pas de... Bon, comme il ne s'y passe pas grand-chose, elle a gardé la trace des premiers instants.
Elle garde toutes les
traces. Et tous ceux d'entre vous qui avaient regardé à l'œil nu ou au télescope ou en photographie la Lune, vous voyez des grands ronds sur la Lune. Ces ronds, ce sont d'immenses cratères d'impact qu'on sait maintenant dater. Depuis qu'on a envoyé des astronautes qui ont ramené des cailloux, eh bien, on a daté les impacts de la Lune. Ces impacts datent des 500 premiers millions d'années de l'histoire de la Lune, c'est-à-dire entre moins 4500 et moins 4000. Donc il y a 4000 millions d'années qu'il ne se passe plus grand-chose sur la Lune. Il y a eu un énorme bombardement d'astéroïdes au début et la Terre a sûrement eu le même bombardement. Et il y a dû avoir des cratères géants sur la Terre, mais ces cratères de la croûte d'origine sur Terre, rien n'en a été conservé parce que la Terre, depuis, elle s'est renouvelée. Elle a repeint sa surface de nombreuses fois. La Terre est un astre vivant et donc c'est un astre jeune.
Pour autant, est-ce que tous les cratères sont synonymes d'extinction des espèces? Non.
Alors non, tout dépend de leur taille. Et puis ensuite, pour savoir s'ils signent une extinction, il faut les dater. Beaucoup de gens ont déjà vu une photographie du fameux météore cratère en Arizona, qui est un cratère de 1 ou 2 km de diamètre qu'on peut aller regarder, on peut aller sur le bord, il y a un musée, on peut descendre au fond, il y a un petit chemin. Et ce cratère très impressionnant, il a été formé par l'impact d'une petite météorite, sans doute d'une dizaine de mètres de diamètre, qui est tombée sur Terre il y a quelques dizaines de milliers d'années. Donc l'homme existait. Et si c'est tombé alors que les ancêtres des Indiens d'Amérique étaient déjà là, il y a dû avoir pas mal de dégâts. Mais c'est un tout petit impact et un tel petit impact ne fait pas une extinction en masse. Et on connaît des cratères de 10, 20, 30, 40 km de diamètre qui ne sont associés à aucune extinction. J'irais même un poil plus loin, on ne connaît aucun cratère associé à aucune extinction, sauf le cratère du Mexique et la limite Crétacé-Tertiaire et son iridium, qui reste aujourd'hui un cas unique. Et c'est bien ça le problème des gens qui défendent la théorie de l'impact, c'est que l'impact, il a existé, ça marche une fois, mais ça ne marche pas, ce n'est pas la règle générale.
On marque une courte pause, Vincent Courtillot, et on se retrouve tout de suite après pour évoquer alors ce qui a bien pu provoquer l'extinction des espèces.
Tout ce qui touche la Grèce touche Jacqueline de Romilly. Écoutez-la parler des arbres, commenter Sophocle et l'olivier, Platon et le platane, raconter la mythologie du laurier. Jacqueline de Romilly, un arbre pour la Grèce, dans l'émission Focus sur Canal Académie.
Retour à notre émission Éclairage en compagnie de Vincent Courtillot, géophysicien. Nous évoquons donc l'extinction des espèces qui ne serait pas due pour le coup à une météorite qui se serait écrasée sur la Terre, mais à ce moment-là à une éruption volcanique ou à des éruptions volcaniques.
Voilà, et ce qui a mis la puce à l'oreille d'un certain nombre de chercheurs, et en particulier mon équipe qui s'est lancée dans cette aventure vers la fin des années 80, c'est le fait que les paléontologues nous disaient « Mais attendez, si l'histoire de la météorite est vraie et si elle explique tout, Eh bien, quand je regarde les fossiles dans les roches, je dois voir les fossiles abondants qui notent une vie heureuse pendant tout un tas de temps. Et puis tout d'un coup, l'impact étant instantané, ça se produit en quelques secondes, toute l'extinction doit se produire en un seul niveau et on doit être ensuite face à un désert.
Or, ce n'est pas le cas.
C'est pas le cas. Les paléontologues s'aperçoivent qu'en fait, les extinctions se produisent en plusieurs niveaux. On appelle ça une extinction en marche d'escalier parce qu'en gros, vous avez des phases, des paliers successifs pendant lesquels tout un paquet d'espèces disparaît. Donc, il semble que la crise ne soit pas instantanée, mais qu'elle soit répartie sur une certaine durée de temps. Et quand on regarde avec les outils dont on dispose en géologie la durée de ces marches d'escalier, on s'aperçoit qu'elles sont rapides, mais que l'ensemble des marches, c'est-à-dire l'ensemble de l'extinction de la limite Crétacé-Tertiaire, a probablement pris au moins quelques dizaines de milliers d'années et peut-être quelques centaines de milliers d'années. C'est très court pour un géologue,
oui,
ça reste une catastrophe, mais ce n'est pas très court par rapport à une météorite ou à une vie humaine. Et donc la question qui se posait, c'était pourquoi plusieurs marches d'escalier, d'autant plus qu'on a trouvé une deuxième chose, c'est que les premiers signes d'extinction se produisaient avant la couche d'iridium, donc avant l'arrivée de la météorite.
Avant l'arrivée de la météorite.
Alors les animaux ne pouvaient pas se dire, oulala, il y a une météorite qui arrive dans 50 000 ans, je vais disparaître.
Voilà, ils prévoyaient de disparaître.
Et donc il fallait chercher autre chose. Et cette autre chose, eh bien, nous l'avons découvert, je ne suis pas sûr d'avoir le temps dans cette émission de le raconter pleinement, je l'ai raconté dans un livre qui est paru en 1995 chez Fayard qui s'appelle « La vie en catastrophe » où je raconte un peu cette aventure qui montre bien comment la science se fait, hein, pas du tout de la façon rigoureuse et linéaire qu'on imagine, mais avec des séries d'échecs, d'erreurs et de surprises. Nous étions en Inde avec toute une équipe de collègues en 1985-86 et en fait nous étions en train de mesurer la dérive de l'Inde. Donc moi, je suis d'origine un mesureur de dérive des continents. Comment est-ce qu'on mesure la dérive des continents ? Eh bien, on ramasse des cailloux, on les date et on mesure la direction de l'aimantation dans ces cailloux.
C'est le champ magnétique ?
C'est le champ magnétique terrestre qui s'est figé à l'intérieur de ces cailloux au moment où ils se sont formés. Et il se trouve que le plongement sous l'horizontale de ce champ magnétique, que dans notre jargon nous appelons l'inclinaison magnétique, eh bien, il nous dit à quelle latitude la roche s'est formée.
Donc en fait, le fait de les retrouver un peu plus loin indique où ils étaient à l'origine.
Voilà. Si vous retrouvez une roche qui est aimantée verticalement, eh bien le seul endroit où le champ magnétique est vertical, c'est au pôle. Et donc une roche aimantée verticalement, si elle n'est plus au pôle, c'est qu'elle s'est éloignée du pôle. Si une roche est aimantée à l'horizontale, c'est qu'elle était à l'équateur. Eh bien, nous sommes allés comme ça ramasser des roches en Inde et nous avons trouvé qu'elles avaient l'inclinaison caractéristique de 30 degrés de latitude sud, alors qu'aujourd'hui, elles sont à 30 degrés de latitude nord.
Non.
L'Inde a donc fait 6000 km depuis 60 millions d'années. Ça, Wegener le savait, c'est la grande découverte de la dérive des continents. Nous allions mesurer ça de façon plus précise, de façon à comparer le mouvement de l'Inde au mouvement de l'Asie. Les deux continents sont entrés en collision. Il se trouve que c'est aussi à l'ère secondaire et puis au début de l'ère tertiaire. Et ça a donné la chaîne de l'Himalaya, ça a donné le plateau du Tibet. Et c'est ça que moi j'étudiais avec mes collègues. On essayait de comprendre comment s'est fabriqué le plateau tibétain et la chaîne himalayenne. Alors pour ça, on est allé en Inde. On a vu une immense épaisseur de couches volcaniques qui s'appelle les trappes du Deccan, ces fameux trappes du Deccan. Pourquoi est-ce que ça s'appelle des trappes ? Parce que le mot trappe signifie marche d'escalier dans les langues germaniques, treppen. Et c'est le nom qu'ont donné les géographes suédois, je crois, au XVIIIe siècle, quand ils ont découvert ces paysages de l'Inde, parce que l'érosion les a découpés en marches d'escalier.
Tout simplement.
Un peu comme dans les très beaux paysages qu'on voit dans certains westerns américains.
Oui,
et bien là, c'est en Inde et on voit ces marches d'escalier qui sont des coulées de lave superposées, qui s'étagent les unes sur les autres. Et nous voulions mesurer leur aimantation pour suivre la dérive de l'Inde. On croyait que ce volcanisme s'était mis en place en très longtemps. Et ce qu'on a découvert, c'est que le volcanisme s'était mis en place en moins d'un million d'années, précisément il y a 65 millions d'années, au moment de l'extinction des dinosaures. Et donc on s'est trouvé coincé. À l'époque, je me souviens très bien que j'étais un fanatique de la théorie des Alvarez de la météorite que j'enseignais à mes étudiants depuis les années 80. Et puis en 86, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a aussi un volcan gigantesque, un des plus grands volcans du monde, précisément au moment des dinosaures. Ça ne doit pas être un hasard. Est-ce que par hasard, il y a eu les deux ? Et donc la question suivante, ça a été est-ce que c'est le volcanisme qui est responsable de l'extinction des dinosaures ? Ensuite, la question numéro 2, est-ce que c'est seulement le volcanisme ? Ou est-ce qu'il y a aussi un impact ?
Voilà,
Et puis la question numéro 3, c'est et qu'est-ce qui se passe aux autres extinctions ?
Alors justement, déjà vous étiez en train d'enseigner la théorie de cette fameuse météorite. Là, vous voyez ces fameux volcans. Comment, avec vos autres amis scientifiques, vous avez pu réussir à prouver que finalement, c'était ce que vous aviez découvert, à savoir les trappes ?
Alors, dire qu'on l'a prouvé, c'est toujours difficile, hein, puisque la notion de ce qu'on prouve en science, et en sciences de la Terre en particulier, demande un type de raisonnement assez particulier. Mais disons qu'on a pu former une théorie et vérifier qu'elle ne contradisait aucune expérience. La première chose, c'est que les éruptions successives sur quelques centaines de milliers d'années, ça expliquait parfaitement les extinctions successives en marche d'escalier qui s'étaient produites les unes après les autres. Chaque fois qu'il y avait une impulsion volcanique, il y avait pollution de l'atmosphère et il y avait une phase d'extinction. Donc certains animaux disparaissaient, puis un peu plus tard, une seconde phase volcanique venait encore donner un choc, puis un nouveau choc. Il y a probablement comme ça eu entre 5 et 10 phases successives de volcanisme réparties sur un demi-million d'années.
Mais comment expliquer alors cette marche d'escalier avant le point de, comment dire, point de scission, si vous voulez.
Parce que le point de scission, comme vous dites, c'est le point qui est marqué dans les couches géologiques par le métal iridium, que ce métal, il est bien dû à l'impact de la météorite, qu'il y a bien des animaux qui sont morts à ce moment-là d'en avoir pris un pareil coup dans la figure, mais que d'autres animaux étaient morts avant, uniquement à cause du volcanisme, qui avait lui-même commencé avant. Il n'y a aucun lien entre le volcanisme et l'impact. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, mais est-ce que ça ne serait pas l'impact de la météorite qui casserait la croûte terrestre et qui déclencherait le volcanisme ? C'est astucieux, c'est pas sûr que ça soit physiquement possible, mais de toute façon, on sait que c'est faux. Et pourquoi ? Eh bien, avec de la géologie toute bête. Avec des collègues indiens de l'université d'Ahmedabad, nous avons retrouvé le niveau d'iridium dans des sédiments coincés entre les laves. Et donc, nous avons la preuve que le volcanisme a démarré avant l'impact de la météorite. Donc, les pauvres bestioles qui vivaient à la limite Crétacé-Tertiaire, elles ont eu droit à une des plus grandes éruptions volcaniques de tous les temps en phases successives pendant quelques centaines de milliers d'années. Et au milieu de tout ça, en plus, ils se sont ramassés un astéroïde.
Alors, Vincent Courtillot, vous nous avez expliqué comment les dinosaures se sont éteints, mais pour autant, il y a eu d'autres extinctions avant celle-ci.
Ben oui, justement, c'est ça qui était intéressant, puisqu'on pourrait dire qu'au milieu des années 80, début des années 90, les scientifiques, les deux camps, le camp de la météorite et le camp du volcanisme, étaient à égalité, puisque à la limite Crétacé-Tertiaire, il y avait bien un volcan, et il y avait bien une météorite. Donc la question, c'était, mais qu'est-ce qui se passe aux autres extinctions ? Puisque si on veut faire une théorie générale, il faut qu'elle colle pour tous les
cas. Pour tout le monde.
Et des dizaines d'équipes analogues à la nôtre, et nous aussi, on s'est mis à la recherche des autres grands volcans à la surface du globe. Il y en a une dizaine. On a trouvé une dizaine d'autres trappes. Et dans ces autres trappes, il y en a un en Sibérie, il y en a un en Afrique du Sud, en Éthiopie, et en Amérique du Sud.
En Amérique du Sud, oui.
Voilà, le trappe du Paraná en Amérique du Sud. Les célèbres chutes de l'Iguassu coulent sur les trappes du Paraná en Amérique
mais
du Sud.
Mais qu'on n'avait jamais regardé avant.
On les avait regardés avant, mais on avait étudié leur géologie, leur pétrologie. Et puis, on ne savait pas très bien les dater, parce que ce n'est pas facile, que les techniques n'étaient pas encore assez avancées, puis qu'on ne s'y intéressait pas avec le même degré de précision. En science, on fait de la bonne science quand on se pose des questions. Et nous, on se posait une question. Et à partir du moment où on savait comment regarder, évidemment, on a fait venir des réponses qui n'avaient pas été trouvées avant nous. Et nous et nos collègues, eh bien, nous avons découvert, pour raconter en quelques minutes une histoire qui a duré 10 ans et qui a intéressé des dizaines de laboratoires dans le monde, tous les autres grands volcans de type trappe ont été datés. Tous ont le même volume énorme de quelques millions de kilomètres cubes. Imaginez-vous la France recouverte de 5 km de lave. Hein, la surface de la France recouverte de 5 km de lave. Ces gros objets, tous se sont mis en place en moins d'un million d'années et tous se sont mis en place au moment d'une grande extinction en masse ou bien d'un changement climatique majeur. Alors qu'on a retrouvé d'impact de météorites à aucune autre extinction. Et donc, il apparaît clairement à partir de cette corrélation que ce sont les grandes éruptions volcaniques qui sont la règle générale de l'extinction des espèces, que c'est probablement leurs effets de pollution dont on reparlera qui en sont responsables, mais que l'impact de la météorite, eh bien, il ne s'en est produit qu'un, ou plus exactement, un seul pendant une éruption volcanique. Et maintenant, on comprend autre chose. Il y a probablement d'autres impacts importants qui sont tombés sur Terre et qui n'ont rien fait. Parce qu'un impact, eh ben, c'est pas si effrayant que ça par rapport à une extinction en masse. Par contre, l'impact qui est tombé pendant l'éruption volcanique, il a ajouté son effet. Et les extinctions dues à l'impact sont importantes parce qu'on est tombé sur un monde qui était en pleine catastrophe déjà stressé et qu'on a en gros achevé un certain nombre d'espèces qui étaient certainement déjà très affaiblies.
Alors finalement, les 4 grandes extinctions récentes sont dues à des trappes.
Absolument. Et donc, si on remonte du présent vers le passé, la dernière grande extinction en masse, c'est celle des dinosaures, 65 millions d'années. Ce sont les trappes du Deccan en Inde. Celle d'avant, c'est la limite entre le Trias et le Jurassique, il y a 200 millions d'années. Et on a retrouvé une immense éruption volcanique en Amérique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Espagne et au Portugal et en Amérique du Sud, en Guyane et au Venezuela. Pourquoi est-ce que c'est si loin? Parce que tout simplement, il y a 200 millions d'années, l'océan Atlantique n'était pas ouvert.
C'était la Pangée?
C'était la Pangée et le grand volcan, eh bien, il est tombé, il a émergé au milieu de la Pangée. Je pense d'ailleurs qu'il y a un lien direct entre l'ouverture des bassins océaniques et en particulier l'ouverture de l'océan Atlantique et ce grand trap d'il y a 200 millions d'années que dans notre jargon, on appelle la province magmatique centre-atlantique parce qu'elle n'était pas très connue avant et qu'elle est très abîmée par le fait que les continents se sont ouverts depuis. Et puis je remonte encore de 50 millions d'années, je suis à 250, la plus grande extinction de tous les temps, la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, eh bien on a retrouvé les trappes très précisément, ils sont en Sibérie. Il y a un gigantesque trap et il est très connu des gens qui s'occupent de métaux parce qu'il y a énormément de produits minéraux très très valables économiquement, en particulier du platine, oui, qu'on trouve. Et en fait, ces mines de platine et même peut-être les mines de diamants, eh ben c'est aussi lié aux trappes. Donc les trappes sont des objets économiquement intéressants.
Liés aux trappes ?
Oui, parce que quand les trappes se forment, c'est une énorme bulle de magma qui vient des profondeurs du manteau terrestre. C'est associé à un apport de chaleur et de produits divers et variés. Et on peut montrer entre autres que ça favorise la formation des diamants en profondeur ou la sortie des diamants. Et moi, je propose que sous chaque grand trappe, il y a des mines de diamants à explorer.
Vous allez faire des heureux, là.
Oui, enfin, quand il faut forer 2000 mètres de basalte pour y arriver, ça coûte très cher et on n'a pas beaucoup de candidats. Et puis, je recule encore de 8 millions d'années seulement. Il y a 258 millions d'années. Il y a une autre, la quatrième grande extinction en masse. Elle était très peu connue jusqu'à peu de temps. La plupart des gens du grand public ne connaissent même pas le nom. C'est l'extinction guadeloupien-tatarien entre deux étages de la fin de l'ère primaire. Eh bien, il y a un énorme trap qui est coincé quelque part au sud de la Chine, dans la province du Yunnan, à la frontière du Vietnam. Et puis, nous venons peut-être de retrouver la cinquième grande extinction, celle d'avant, il y a 360 millions d'années dans le Dévonien, en retrouvant du volcanisme à divers endroits de Sibérie et de Russie qui semblent avoir le bon âge. Donc en gros, ça marche à pratiquement tous les coups.
À force de chercher dans le passé, est-ce que ça va nous permettre de pouvoir faire des suggestions pour le futur ?
Alors oui, on peut faire des prédictions très molles. Je vous ai parlé des trappes qui ont causé des extinctions massives les plus grandes. Il y en a plus que ça, il y en a une dizaine en tout. Et ceux dont je ne vous ai pas parlé, ils ont causé soit des extinctions un peu moins importantes, soit des grands changements climatiques, en particulier des moments où il n'y avait plus d'oxygène dans le fond des océans. Et donc on trouve des sédiments noirâtres à ces périodes-là, qu'on connaît bien, que les géologues connaissent bien, et qui correspondent à des moments où la circulation de l'océan était faiblarde et où il n'y avait pratiquement pas de vie dans le fond. C'est encore associé à des éruptions volcaniques quand elles sont sous-marines, tout simplement. Quand elles sont aériennes, elles créent des extinctions comme celles des dinosaures. Quand elles sont sous-marines, elles modifient complètement la chimie de l'océan et elles font également des phénomènes que les géologues enregistrent extrêmement bien. Si on regarde tous les combien il se produit une éruption de trappe, c'est très irrégulier. De temps en temps, entre deux trappes, il peut y avoir que 8 millions d'années, comme entre les trappes de Chine et les trappes de Sibérie. Parfois, il peut y avoir 50, 60, 70 millions d'années. Mais en moyenne, c'est 30. Donc en gros, il y a un trap tous les 30 millions d'années. Alors vous allez me dire, de quand date le dernier ?
Voilà.
Le dernier, c'était il y a 30 millions d'années, en Éthiopie. Et donc en Éthiopie, le grand plateau d'Éthiopie sur lequel est construite la capitale, Addis Abeba, c'est un immense plateau de lave qui s'est formé, qui n'a pas fait d'extinction en masse il y a 30 millions d'années, mais il a changé le climat. Il nous a fait rentrer dans une ère très froide et en particulier ça correspond avec les grandes avancées de glace dans l'Antarctique. Donc c'est un changement climatique majeur et c'est le dernier trap il y a 30 millions d'années. Donc le prochain,
ça
pourrait être maintenant. Sauf que c'est maintenant à quelques millions d'années près, donc je pense que l'échelle de temps n'inquiétera pas trop nos auditeurs. D'autant plus qu'on peut dire que, grâce à la sismologie qui nous permet de regarder l'intérieur de la Terre, on verra sans doute monter la bulle de magma géante qui précédera l'éruption et on aura probablement plusieurs centaines de milliers d'années, si ce n'est plusieurs millions d'années d'avance pour s'échapper ailleurs. Donc je pense qu'on aura le temps de voir venir.
On attend de voir venir. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite après pour évoquer cette fois-ci l'impact sur le climat.
Pourquoi la musique de Mozart est-elle tout à fait accessible à tout cœur humain ? Gilles Cantagrel, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, est venu présenter une communication sur Mozart le 22 mars 2006 devant les membres de l'Académie. À travers les manuscrits du célèbre compositeur, Gilles Cantagrel vous propose de découvrir, selon ses mots, quel fut le tempo de la vie du célèbre compositeur dont la brièveté souligne le génie miraculeux. Retrouvez Gilles Cantagrel dans l'émission En séance.
Suite de notre émission éclairage avec Vincent Courtillot, géophysicien. Alors Vincent Courtillot, depuis le début de notre émission, nous évoquons l'extinction des espèces avec cette fameuse météorite dont on a parlé dans les années 80. Finalement, on se rend compte que ce sont les trappes qui sont à l'origine des grandes extinctions. Mais finalement, est-ce que au niveau du climat, ça n'a pas aussi changé les choses avec ces fameuses trappes, ces fameux volcans ?
Vous avez tout à fait raison. La question avec laquelle on est maintenant confronté, c'est, bon, nous, géophysiciens, géologues, on explique à nos autres collègues scientifiques qu'on voit une éruption à chaque extinction en masse. Donc, on leur dit, il y a bien quelque chose qui fait mourir les bêtes. Mais nous ne sommes pas des spécialistes de biologie, et donc, nous ne sommes pas des spécialistes de ce qui peut faire mourir les bêtes. Mais ça fait rien quand on veut démontrer la validité d'une théorie, il faut faire un effort. Et la balle est dans le camp de ceux qui veulent montrer la théorie nouvelle. Et donc, on nous a dit, bah, quand même, il faut que vous fassiez un effort. Trouvez-nous la raison pour laquelle on stresse les bêtes. La seule façon de les stresser, c'est de changer le climat. Et donc, avec mon groupe et beaucoup d'autres groupes de recherche, nous nous sommes embarqués dans un domaine qui n'était pas le nôtre. C'est comment de gigantesques éruptions volcaniques peuvent-elles altérer l'environnement à la surface du globe. Alors pour ça, il fallait commencer par essayer d'avoir un modèle réduit avant de commencer. Et le modèle réduit, on l'a trouvé sous la forme d'une éruption que je connaissais à peine il y a une dizaine d'années et qui s'avère avoir été une éruption extraordinaire. C'est l'éruption du Laki en Islande. En 1783, donc là, on n'est plus dans les temps géologiques, on est il y a 220-230 ans.
On se rapproche dangereusement.
On se rapproche dangereusement. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1783? Eh bien, il y a eu une des plus grandes éruptions volcaniques basaltiques de tous les temps historiques, c'est-à-dire une fissure qui s'est ouverte en Islande sur une quinzaine de kilomètres de long, qui a craché de la lave pendant une année entière avec des paroxysmes et qui a envoyé de la lave, des gaz, des aérosols, comme on dit, en particulier du soufre. Dans l'atmosphère et dans la très haute atmosphère, puisqu'on sait maintenant que la stratosphère a été atteinte. Or, quand des gaz sont injectés dans la stratosphère,
il reste un certain temps.
Ce sont des aérosols en fait d'acide sulfurique. Le soufre qui est craché par le volcan se mélange à l'eau et le gaz sulfureux finit par donner des micro-gouttelettes d'acide sulfurique qui font quelques millionièmes de mètres, quelques microns de taille. Cette espèce de brouillard de gouttelettes minuscules d'acide sulfurique, on appelle ça un aérosol. Et cet aérosol dans la stratosphère, il peut rester plusieurs mois avant de retomber. Et il peut surtout circuler sur la Terre entière. Et qu'est-ce qu'il fait cet aérosol ? Eh bien, il absorbe une partie de la lumière du soleil. Et donc, il chauffe la stratosphère, mais comme il vous vole de la lumière en bas, il refroidit la basse atmosphère. Et donc, on fabrique un sandwich thermique. Il fait chaud dans la stratosphère à 10 km d'altitude et froid dans la basse atmosphère. En plus, il se passe d'autres phénomènes quand on est à proximité, à basse altitude, donc à proximité de l'Islande.
Mais c'est incroyable cet enchaînement, en fait, qui produit tout simplement l'extinction des espèces.
Et cet enchaînement, il fallait le comprendre, il fallait surtout le documenter. Et ce qui est merveilleux, c'est que les historiens et les volcanologues ont réussi, à partir des témoignages de l'époque, à reconstituer l'éruption, à retrouver les dates d'éruption, à retrouver les volumes de lave et de gaz émis. Ils se sont aperçus que des tas de gens racontent que pendant cette période, il y a eu un brouillard exceptionnel, comme il n'y en a plus jamais eu sur Terre depuis 1784, sauf dans des zones de pollution industrielle épouvantable, justement à cause de la pollution au soufre. Et ce brouillard, on l'a observé jusqu'en France, où un certain monsieur Mourgue de Montredon, qui était installé à Montpellier, dans un petit village, Montredon, pas très loin de Montpellier, qui était un scientifique avant la lettre, qui s'intéressait à la météo, eh bien, il notait tous les jours avec une précision extraordinaire le climat, la température, la direction du vent, si on voyait le soleil, l'humidité, le brouillard, tout ça.
Et à partir de ça, il a travaillé.
Voilà, et il a vu apparaître le brouillard, et il a vu la végétation s'abîmer, et il a compris qu'il se passait quelque chose. Il a observé pendant plusieurs mois et il a publié, dès l'année 1783, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de Montpellier, qui a ensuite été envoyé aux comptes rendus de l'Académie des sciences à Paris, un extraordinaire article que j'ai découvert grâce à des collègues très tardivement et qui est un article magnifiquement moderne, magnifiquement argumenté et où on voit se dérouler l'empoisonnement de l'atmosphère en France en 1783.
Est-ce qu'il y a eu un impact sur la vie ?
Et il y a eu un impact sur la vie. Alors, il y a d'abord eu un impact sur l'économie, ça c'était connu depuis longtemps. On sait qu'il y a eu un été 1783 catastrophiquement chaud, un hiver 1783-84 catastrophiquement froid, très mauvaise récolte, la vigne, le blé, les feuilles ont commencé à pourrir, à s'abîmer. Mourgue de Montredon a remarqué qu'il y avait une odeur de soufre. Il a compris que c'était probablement dû à une éruption volcanique et il a même pensé à lier ça à l'éruption volcanique dont les voyageurs parlaient qui était en cours en Islande.
Mais on sentait le soufre
Apparemment, on sentait le soufre à Montpellier et on comprenait que les feuilles étaient attaquées par une pollution sèche à base de soufre. Donc en tout cas, Mourgues de Morandon a compris ça. Un autre scientifique célèbre a compris ça pratiquement en même temps, c'est Benjamin Franklin, qui était à ce moment-là à la cour du roi Louis XVI en train de plaider pour récupérer des crédits et des armes pour la Révolution américaine, et qui, entre deux audiences auprès du roi Louis XVI, avait la possibilité de réfléchir et a publié un article sur le même sujet. Mais Mourgues de Morandon l'a battu, ce qui fait qu'on peut attribuer à Mourgues de Morandon le premier article scientifique faisant la liaison entre volcanisme et changement climatique. Et alors vous me demandez oui, mais et la vie et les hommes? Eh bien, très récemment, un Anglais, le professeur John Grattan, a découvert, en analysant très soigneusement les taux d'enterrement en Angleterre du Sud pendant toutes ces années-là, puis en venant en France avec des collègues étudier les enregistrements des décès dans les paroisses et les communes françaises, qu'il y a eu un fantastique pic de mortalité dans les mois d'octobre-novembre 1783. On estime aujourd'hui à 100 à 200 000 le nombre de morts supplémentaires par rapport au nombre de morts normaux de l'époque, statistiquement, c'est-à-dire quelque chose qui est de 10 à 20 fois pire que la canicule de l'été d'il y a 2 ans. Donc, il y a eu non seulement un effet sur le climat, sur l'économie, mais très probablement des maladies respiratoires, des problèmes alimentaires, des problèmes de santé qui font que cette microscopique éruption du Laki 1783 a été une catastrophe humaine très significative.
Une éruption qui a duré un an, quand même.
Une éruption qui a duré un an. Alors, pourquoi je dis microscopique? Parce que cette éruption, elle a produit 10 km cubes de lave. Alors, 10 km cubes, ça fait beaucoup pour un homme. Mais retournons maintenant aux trappes. Est-ce que ce modèle réduit peut nous servir à comprendre les grandes trappes? Eh bien, il faut revenir au volume de ces grandes trappes. Qu'est-ce que c'est qu'un grand trappe? C'est des centaines de coulées volcaniques superposées. Combien fait une coulée? Eh bien, en cartographiant très soigneusement des coulées de trappes, on s'est aperçu que certaines d'entre elles pouvaient dépasser 5000 km cubes de volume en une seule coulée, mise en place peut-être en seulement 50 ans. Donc, chacun peut se saisir d'un crayon et d'un ticket de métro pour faire une petite division sur le dos du ticket de métro. 5000 km cubes divisé par 50 ans, ça fait 100 km cubes par an. C'est 10 fois plus que le Laki pendant 50 fois plus longtemps. 10 fois le Laki, 50 fois plus longtemps, c'est 500 fois pire, et c'est une coulée. Et il y a des centaines de coulées dans un trappe. Donc ça y est, vous avez compris, la quantité de soufre émise en crises successives par les trappes, et probablement le soufre est l'élément essentiel de l'empoisonnement, c'est de nature à modifier complètement le climat. Et avec des chercheurs de mon équipe, Anne-Lise Chenet, Frédéric Flutot, nous sommes en train de travailler maintenant à l'étape suivante. On calcule des modèles de climat, d'abord à l'échelle de l'éruption du Laki pour voir si ça marche, puis ensuite à l'échelle d'un trappe entier. Et je pense que d'ici quelques mois ou quelques années, nous allons enfin arriver à montrer aux biologistes comment le climat a été monstrueusement altéré par ces rares grandes éruptions volcaniques. Après, on laissera aux biologistes le soin de voir pourquoi, dans un climat aussi pourri, les bestioles sont mortes.
Mais alors, oui, c'est un climat qui a changé dans tout l'hémisphère nord avec cette éruption.
Alors, dans le cas du Laki, c'est un climat qui a changé dans presque tout l'hémisphère nord. Dans le cas des grands trappes, il y a tellement de matériaux que la distribution des gaz dans l'atmosphère et des aérosols a dû être globale. Et donc, c'est toute la stratosphère du monde entier qui a dû être envahie par ces quantités de soufre. Et pourtant, certains trappes n'ont pas créé d'extinction en masse. Donc, vous avez beau voir que le Laki, c'est pas plaisant. Qu'une seule coulée de trappe, c'est probablement dramatique. Qu'il y a des centaines de coulées de trappe, eh bien, il y a des trappes qui ne font pas d'extinction en masse. Pourquoi? Parce que peut-être leurs coulées sont espacées dans le temps de plusieurs milliers d'années. Et la Terre est une machine qui est munie d'extraordinaires défenses. L'océan est notre défense essentielle. Quand vous perturbez l'atmosphère, l'océan se remet à l'équilibre en quelques milliers d'années. Donc si vous faites une grosse éruption qui abîme le climat et puis que vous laissez les choses faire, eh bien les produits se dissolvent dans l'océan et au bout d'un millier d'années, le système est revenu à l'équilibre. Et donc si vous avez une éruption tous les 5000 ans, pendant 200 000 ans, ça a l'air catastrophique, c'est pas agréable. Mais à chaque fois, le système se remet à l'équilibre après chaque petit choc violent. Mais si de temps en temps, vous n'avez pas de chance et que plusieurs de ces éruptions énormes de 5000 km3 arrivent en quelques siècles, à ce moment-là, le système n'a plus le temps de se remettre à l'équilibre. Il y a ce qu'on appelle en anglais un runaway effect, un effet de dérapage exponentiel, et le système passe en torche et l'empoisonnement devient tel que plus rien ne résiste et plus rien ne se remet à l'équilibre. Et nous avons la réponse. Pourquoi est-ce que toutes les éruptions volcaniques ne donnent pas des extinctions de la même taille? Eh bien, c'est que c'est l'histoire précise de ces éruptions qui fait qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas une extinction en masse.
Ça, c'est très récent, tout ce que vous pouvez nous dire actuellement, que vous nous dites si bien et si bien expliqué, tout ça, ce sont des découvertes très récentes.
Alors, ce sont des découvertes qui s'étalent pour les premières depuis 20 ans, mais au début, c'était une vision très minoritaire, elle a été combattue. Ensuite, il a fallu montrer que ça s'appliquait à d'autres trappes. Ensuite, il a fallu faire le modèle climatique. Et dans ce que je vous ai raconté dans les 10 dernières minutes, eh bien, ce sont des articles qui sont parus au cours des 2 ou 3 dernières années, en partie dans les comptes rendus de l'Académie des sciences d'ailleurs. D'autres sont en cours de préparation et il y a même certaines choses que je ne vous dis pas encore, parce que ce sont des choses qui ne sont pas publiées et que vous savez que la déontologie des chercheurs veut qu'on ne parle de façon publique des recherches que quand on leur a fait subir la vérification par nos pairs et qu'elles ont été publiées dans des revues internationales. Donc d'ici 6 mois à 1 an, je devrais avoir encore plus de choses à vous raconter.
Alors de ce fait, comme vous êtes professeur, vous êtes passé d'un enseignement de l'enseignement de la météorite à l'enseignement des trappes.
Tout à fait. Alors, en disant ce que je vous dis ici, c'est-à-dire d'abord que les choses ne sont pas tout noir et tout blanc, que la découverte de l'iridium est une découverte scientifique importante, que l'hypothèse de la météorite était très astucieuse, qu'elle est probablement vérifiée qu'il y a bien eu un impact, mais que ça ne suffit pas et qu'il a fallu aller un coin plus loin, découvrir l'importance de ce volcanisme qui, il y a 10 ans encore, n'était pas réalisé. Les géologues du monde n'avaient pas compris que ces trappes, c'était des moments essentiels et qu'en gros, eh bien, c'était les moments qui ponctuent à la fois l'histoire de la géologie, puisque c'est comme ça qu'est définie l'échelle des temps géologiques, et c'est les moments qui ponctuent l'histoire de la vie sur Terre. Nous sommes ici aujourd'hui parce que 4 ou 5 fois depuis 500 millions d'années, tout a changé en très peu de temps, qu'une grande partie de ce qui vivait et vivait fort bien a été éliminé, et nous sommes les descendants de ceux qui ont 5 fois de suite ou plus la chance d'en réchapper. Nous sommes les survivants des survivants des survivants des survivants. Il aurait suffi que ces grandes éruptions volcaniques se produisent 5 millions d'années plus tôt, 5 millions d'années plus tard, qu'elles soient un peu plus grosses, un peu plus rapides, un peu plus lentes, un peu plus riches ou pauvres en soufre, ça n'aurait rien changé à la physique, ça n'aurait rien changé à la chimie, ça n'aurait rien changé à notre vue de la géologie du monde. Et pourtant, en changeant ça, on aurait probablement complètement changé les espèces qui auraient survécu, celles qui n'auraient pas survécu, et les espèces qui vivraient aujourd'hui sur Terre seraient statistiquement les mêmes, mais dans la réalité précise, elles ne seraient probablement pas les mêmes, et la probabilité pour que l'homme se soit développé serait très faible. Il n'y aurait pas d'homme, il n'y aurait pas de vie sur Terre telle exactement que nous la voyons aujourd'hui, si cette séquence ne s'était pas produite. C'est la fameuse histoire du hasard et de la nécessité. Chacune de ces éruptions était imprédictible, on ne pouvait pas savoir qu'elle arriverait, mais une fois qu'elle s'est produite, ses conséquences sont irréversibles et nous portons dans nos gènes la trace de cette histoire.
En fait, vous nous faites prendre conscience de notre propre existence, que notre existence n'est que hasard, finalement, heureux hasard. Mais
j'ai l'impression que plutôt que de dire que je vous fais prendre conscience de votre existence, et je suis sûr que chacun a tout à fait conscience de son existence, je vous fais prendre conscience du fait que l'histoire de votre espèce et de vos gènes est une histoire qui est enracinée dans l'histoire géologique et qu'on ne peut pas séparer l'histoire de la vie de l'histoire de la Terre, que la Terre est beaucoup plus vivante qu'on ne s'en aperçoit quand on la regarde, bien qu'avec le tremblement de terre et le tsunami de Sumatra ou bien la dernière éruption le mois dernier du Piton de la Fournaise à La Réunion, on sait bien que la Terre est vivante, mais la Terre qu'on voit aujourd'hui est une Terre très calme par rapport à ces quelques rares moments de l'histoire de la Terre où tout a été bouleversé et où l'empreinte de ces bouleversements s'est marquée dans l'évolution des espèces. On ne peut plus comprendre l'évolution des espèces biologiques sans faire de la géologie.
On marque une dernière courte pause, Vincent Courtillot, avant de se retrouver pour parler cette fois-ci du climat futur avec les fameux climatologues.
Dans sa médiathèque, Canal Academy vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Academy.
Retour à notre émission Éclairage en compagnie de Vincent Courtillot. Pour ces 10 dernières minutes, Vincent Courtillot, vous allez pouvoir nous parler du climat, à savoir du climat à venir, dans les 100 ans à venir, puisque votre rôle, si vous êtes géophysicien, que vous travaillez sur les dinosaures, les volcans, et donc de ces trappes qui ont un impact sur le climat, toutes vos recherches et toutes les recherches de vos collègues scientifiques peuvent aider aussi les climatologues.
Alors vous dites ça très gentiment et comme si c'était une évidence, et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais ce n'est pas encore une évidence pour tout le monde. En effet, l'image du géologue, et depuis le début j'ai peut-être donné cette image à nos auditeurs, c'est celle de quelqu'un qui regarde le passé profond de la Terre et qui compte en millions d'années. Et donc la réaction, c'est de se dire, culturellement c'est intéressant ce qu'il me raconte, mais dans ma vie de tous les jours, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Moi, je vis à l'échelle des années, pas à l'échelle des millions d'années. Et le nouveau message qui sort de cette géologie moderne, c'est un message que, en fait, le géologue est capable de voir des crises très brèves et très intenses dans le passé très lointain de la Terre. Reprenons quelques-uns des chiffres que je vous ai donnés comme ordre de grandeur. Je vous ai dit qu'une coulée des trappes du Deccan, c'était quelque chose qui était capable de se mettre en place en 50 ans. Et que pendant 50 ans, chaque année, ça envoyait dans l'atmosphère 10 fois plus de soufre que l'éruption du Laki et beaucoup plus que la pollution humaine ne le fait aujourd'hui. Et donc les flux, les quantités de gaz injectées dans l'atmosphère pendant quelques années sont du même ordre ou pire que celles que l'homme injecte dans l'atmosphère. Et donc tous ceux qui s'inquiètent des changements climatiques du siècle qui vient, qui font des modèles de l'évolution du climat basés sur l'évolution du gaz carbonique dans l'atmosphère, du gaz sulfureux, des produits de la pollution, des chlorofluorocarbures, ils travaillent avec des modèles à l'échelle de quelques années à une centaine d'années, avec l'impression qu'il suffit de connaître les 100 dernières années pour comprendre les 100 prochaines. C'est pas évident. Il est possible que l'homme soit en train d'injecter dans l'atmosphère des quantités de soufre et de carbone telles qu'en fait, ça ne s'est pas produit pendant les derniers millénaires et peut-être même pendant les derniers millions d'années, mais que ça s'est produit pendant les éruptions volcaniques des trappes. Et donc le géologue qui étudie les conséquences sur la biosphère à travers les fossiles avec l'aide du paléontologue il y a 65 ou bien 200 ou bien 250 millions d'années, il est en fait capable de tester des hypothèses et des modèles climatiques, et donc il est capable de donner ce qu'on pourrait appeler dans le jargon des informaticiens un benchmark, une ligne de référence aux climatologues. Je pense que le géologue qui peut maintenant mesurer l'effet de brèves catastrophes profondes dans le passé de la Terre va pouvoir dire au climatologue « Je peux tester ton modèle, dis-moi ce que tu injectes, dis-moi quelle est la réponse » et je regarderai si ça colle avec mes observations de géologue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Le géologue du passé profond a des choses très importantes à dire au climatologue du futur immédiat, lequel, sans le géologue, probablement, ne pourrait jamais tester ses modèles.
Et actuellement, vous pensez qu'il y a encore une scission entre ces deux exercices, ces deux fonctions?
C'est pas une scission, mais comme vous le savez fort bien, la science est tellement vaste qu'elle a tendance à se spécialiser. Chacun a sa spécialisation. Moi, je viens de vous parler de façon assez culottée pendant une heure de 30 ou 40 disciplines différentes. Que nos auditeurs ne croient pas que je suis spécialiste de chacune d'entre elles. Ma spécialité, c'est la géophysique. À l'intérieur de la géophysique, c'est le magnétisme. À l'intérieur du magnétisme, c'est le paléomagnétisme, c'est-à-dire l'aimantation des roches. Et partant de là, il a fallu, évidemment, on est parti de là pour faire nos découvertes, mais il a fallu ensuite regarder ce que disait le géochimiste avec l'iridium, le paléontologue avec les fossiles, le climatologue. Et donc, on a besoin de faire de la science à plusieurs. Il faut constituer des équipes, il faut travailler ensemble, construire un programme scientifique. Et je suis comme ça passé de la géophysique à la géochimie, à la géologie de terrain. Et maintenant, je me hasarde dans un domaine qui n'est pas du tout le mien, c'est celui de la modélisation climatique, évidemment, en travaillant avec des collègues spécialisés. Et évidemment, ce travail, c'est un travail avec des erreurs, des échecs, des efforts, des retournements. On s'apprend des choses les uns aux autres. Donc moi, j'apprends beaucoup des climatologues. Je crois qu'ils ont aussi à apprendre de nous et c'est ça qui nous fait marcher.
Qu'est-ce que le géologue pourrait dire aujourd'hui à un climatologue ?
Le message principal, c'est de dire, avec la modélisation que nous venons de faire des conséquences de l'éruption du Laki en 1783 sur le climat, tout petit événement, en regardant la quantité de soufre que l'homme injecte avec ses activités industrielles chaque année dans l'atmosphère aujourd'hui, en projetant l'évolution économique attendue des pays comme la Chine ou l'Inde qui se développent et qui vont en rejeter de plus en plus dans le siècle qui vient au fur et à mesure qu'ils vont se développer, ce qui est normal, à partir de là, je peux essayer de comparer ces taux d'injection et leur évolution au taux d'injection qui se produisait pendant une éruption volcanique et regarder, tel que les roches l'ont enregistré, la mémoire des changements du climat de la Terre il y a 65 millions d'années sous l'effet de ce stress et comparer les modèles des climats dans les 100 ans qui viennent, les hypothèses d'évolution industrielle ou humaine et l'observation des géologues. Qu'est-ce que la Terre a fait quand elle a fait d'elle-même cette expérience lors des grandes catastrophes volcaniques ?
Et finalement, vous n'avez pas un discours très réjouissant, puisque si vous faites la comparaison entre ce volcan qui a fait des émanations de soufre et qui, à long terme, a provoqué la mort de pas mal de personnes, et puis là, actuellement, les émanations de produits toxiques que nous, êtres humains, pouvons mettre comme ça à l'extérieur, c'est pas très réjouissant.
Écoutez, c'est pas évident du tout. Je vous ai dit qu'on allait pouvoir comparer. Comparer, ça ne vous dit pas lequel est le plus gros. Et donc, ce que je pense, c'est que les prédictions des modèles climatiques, encore très primitifs dans certains cas, on ne comprend pas encore bien la formation des nuages, on ne sait pas encore totalement bien intégrer l'évolution du gaz carbonique dans les modèles climatiques, on ne sait pas encore totalement faire la part du gaz carbonique, des éruptions volcaniques, des changements d'activité du soleil. Le soleil change sans arrêt d'activité, il n'est pas du tout constant dans la façon qu'il a de nous illuminer et de nous réchauffer, il a changé au cours des temps. C'est comme ça qu'il y a une période chaude au Moyen-Âge et un petit âge glaciaire au temps des peintures de Bruegel qui nous montrent les patineurs sur la glace ou bien au temps des guerres et des famines sous Louis XIV. Donc tous ces paramètres, on est en train d'essayer de les affiner. Et nous, ce qu'on est en train de dire, c'est on peut comparer les effets. Peut-être qu'on trouvera que les effets sont beaucoup plus forts ou beaucoup plus faibles. Et donc nous ne sommes ni pessimistes ni optimistes. On a un moyen de mesurer plus sérieusement. Je n'exclus pas qu'on arrive à montrer que les conséquences de l'injection du soufre et du gaz carbonique faites par l'homme dans l'atmosphère sont moins effrayantes ou plus effrayantes que ce que nous racontent tous les modèles actuels avec les 1 à 5 degrés de réchauffement climatique dans les 100 ans qui viennent. Je pense en fait que l'incertitude est encore énorme. Et l'éruption du Laki de 1783, je vous ai montré combien elle avait été importante, 20 fois le nombre de morts de la canicule d'il y a 2 ans. Et bien, je vous ai aussi dit que depuis cette période, il n'y en a pas eu d'éruption comme ça. Et l'espèce humaine n'est pas en train d'injecter des quantités de soufre égales à celles de l'éruption du Laki. Donc la Terre, il y a 200 ans, a fait pire que ce que fait l'homme aujourd'hui. Ceci dit, le volcan d'Irlande, il rentrera bien en éruption un jour, la Terre ne cesse de vivre, la Terre ne cesse de changer. Et peut-être que le message final qu'on peut donner à nos auditeurs et qui est celui que font apparaître les gens des sciences de la Terre depuis 20 ans, c'est que rien n'est stable. Sans arrêt, à toutes les échelles de temps, à l'échelle de 10 ans, de 100 ans, de 1000 ans, de 10 000 ans, le climat change, les tremblements de terre changent, les éruptions volcaniques changent, l'humidité change, les nuages changent, le soleil change, et l'homme, depuis un million d'années, s'adapte sans arrêt à ces continuelles évolutions. Je pense simplement qu'un homme, à l'échelle de sa vie, a envie que tout reste comme quand il était petit, que nous sommes par essence profondément conservateurs, qu'on voudrait se persuader que rien ne va changer. Eh bien, en fait, de tous les temps géologiques, ce que l'on vous apprend, c'est que la Terre n'a pas arrêté de changer.
Eh bien, c'est sur ces derniers mots, Vincent Courtillot, que nous allons nous quitter. Merci de nous avoir accordé une heure pour cet éclairage. Et quant à nous, quant aux auditeurs, on se retrouve bientôt. Merci, au revoir.
Merci.